Je commence avec la présentation de Christine Esclapé, première en français et après en catalan pour donner du temps quand même. Je dirais un peu, Christine, c'est professeure en musicologie à l'université d'Aix-Marseille et elle est aussi chercheuse au LESA, qui est le laboratoire d'études en sciences des arts. Et elle co-dirige aussi l'axe ICAR, que c'est Interaction, Recherche, Création et Action, ainsi que directrice artistique du Festival Architectique Contemporain, que c'est le sujet que, en fait, je lui ai demandé à Christine de nous exposer aujourd'hui, parce que vous verrez que c'est une expérience très, très impressionnante. Elle a fondé, parmi d'autres, dans l'année 2010, le groupe de recherche d'ICLEM, que c'est création et langage, musique et musicologie. Et avec ce groupe, elle conduit les publications annuelles d'ouvrages collectifs aux éditions de l'Armatan. On a déjà quatre, je pense, non ?
Trois
déjà, c'est pas mal. La dernière, Ontologie de la création en musique. Alors, je ne continue pas avec cette information. Je veux dire que Christine, c'est aussi une chère amie et que je suis très contente de qu'elle soit parmi nous aujourd'hui et que je remercie beaucoup, beaucoup pour être avec nous pour ce sujet. Passo ara al català. Us dic en poques línies una mica qui és la Christine Esclapé. La Christine Esclapé és professora de musicologia a l'Universitat d'Aix-Marseille, a Marsella, és a dir, que són veïns del sud, i és investigadora a diferents laboratoris, a l'ESA, al Laboratori d'Estudis en Ciències de l'Art, i codirigeix també el grup Interaccions, Investigació, Creació i Acció. I particularment, a més, és directora del Festival d'Arquitectures Contemporànies, que és un festival universitari de joves creacions que es realitza des de l'any 2008 i és per aquest tema que justament jo vaig pensar en convidar la Christine perquè ens exposi la seva experiència tant com a professora d'una universitat en la qual es treballa amb els estudiants que participen en aquestes propostes, com també com musicòloga que porta la seva tasca investigadora, és a dir, com les dues línies s'uneixen amb aquesta feina. A part, també la Christine porta un grup d'investigació en diferents doctorants, estudiants de doctorat, que és el CLEM, que es diu Creació, Llenguatges, Músiques i Musicologia, i ella organitza, juntament amb els doctorats de la seva universitat, diferents trobades en les quals jo he tingut la sort també de participar, que després són publicades amb l'editorial de l'Armatan, on han sortit ja tres llibres. Us deixo ja amb la Christine. És que tenim a la porta, si els hi feu entrar, sisplau, perquè entrin abans de que... Sí. Molt bon dia, benvinguts. Sí. Molt bon dia, gràcies per estar aquí. Acabava de presentar a la Christine Esclapez, que, com sabeu, pel programa és professora d'Aix-Marseille. Per aquells que acabeu d'arribar, com la xerrada està en francès i no sé com està el nivell de francès, teniu a l'entrada uns resums en castellà que podeu agafar. De totes maneres, part de la seva intervenció serà amb exemples també amb imatge, vídeo i so, amb la qual cosa amb això ja no tindreu problema, i l'altre doncs, compartiu si no teniu prou el resum, i amb el resum doncs, ja també us podeu anar fent la idea de tot el que la Cristina ens ha de presentar. Doncs us deixo ja amb la Cristina. Cantive, tu peux commencer.
Bonjour à tous. Je vais surtout commencer par remercier Carmen pour son invitation. Je suis vraiment très très contente d'être ici avec vous et puis de partager voilà une expérience qui m'est très très chère et qui est une expérience universitaire mais qui est aussi une expérience humaine. Quiero decir algunas palabras en español. No hablo catalán, pero hablo un poquito de castellano. Pues si después de mi conferencia quiere preguntarme algunas cosas, comprendo y puedo traer de hablar con vosotros. Bueno, voy a hablar en francés, pero si no comprende, puede stoparme. Donc je suis très très contente parce que cette expérience, donc, qui est un festival universitaire, évidemment, j'ai très très peu l'occasion d'en parler en conférence. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on fait des conférences, on parle plutôt de théorie, de posture, etc. Et je remercie vraiment Carmen parce que ça m'a permis aussi de réfléchir à cette expérience qui dure depuis 9 ans et donc maintenant d'en faire un point. Donc merci beaucoup, Carmen, pour tout ça. Donc je vais commencer et je vais essayer de lire très, très lentement. Voilà. Donc l'objectif de ma contribution est double, donc je viens de vous le dire, premièrement rendre compte d'une expérience artistique, musicale, que j'ai qualifiée de participative, et je vais revenir sur ce terme. Et donc cette expérience est un festival universitaire qui s'appelle Architecture Contemporaine, qui est un festival que nous portons au sein du secteur musique d'Aix-Marseille Université depuis 9 ans. Nous préparons la 9e édition en 2016, en mai 2016. Donc ce festival a été créé en 2008. Et puis, donc pour l'occasion, ici à Girona, j'ai réfléchi à ce qu'on avait tenté de créer, et donc j'aborderai dans une deuxième partie de ma conférence la problématique de la refiguration des corps dans la cité. Et cette problématique va engager ma contribution sur le plan esthétique et sur le plan politique. Et donc je poserai une question principale qui est indiquée ici. Dans quelle mesure cette manifestation nous a-t-elle permis, ou plutôt donné l'opportunité, de travailler notre rapport à la démocratie en nous permettant de l'envisager comme une possible zone d'apprentissage ou de réapprentissage de notre engagement ou réengagement personnel. Donc cette réflexion évidemment est plus large puisque j'ai réfléchi à cette façon que nous avons eue, presque sans le savoir, de transformer le rapport entre l'université et la cité. Effectivement, je parlerai de Marseille, mais pas uniquement, vous allez voir pourquoi, hein, ce festival est beaucoup plus vaste. Et bien sûr, nous parlons ici en priorité du monde universitaire. Et j'aborderai très rapidement la question de l'université en France aussi, et de sa profonde transformation. Alors, comme c'est bien souvent le cas, c'est plutôt le faire qui a précédé l'agir, et bien sûr c'est au fil des années que nous nous sommes rendus compte de ce que nous avons créé et qui est un lieu très fragile que nous défendons chaque année, j'y reviendrai aussi. Donc en fait nous avons maintenant la conscience à Aix d'avoir créé une sorte de lieu d'habitation du monde qui est à la fois personnel et commun. Donc à partir de cette situation, il s'agira pour moi de tenter de tisser des liens entre le citoyen sujet et l'espace public et d'aborder la question de l'individuation comme une interaction entre de l'individuel et du social, mais aussi cette question d'un individu qui est connecté, donc un individu qui arrive à affirmer sa personnalité tout en sachant qu'il est contingent, parce que je pense que là aussi on va réfléchir à la question d'une interaction avec un système qui est aussi le nôtre et avec lequel nous devons apprendre à jouer plutôt qu'à peut-être à s'opposer. Voilà, ça sera un peu toute la question de ma contribution. Alors voilà, c'est un petit peu long parce que du coup j'avais du temps. Il y a une première partie qui est plus concrète, je vais expliquer et décrire le festival. Il y a des vidéos, il y a du son, et puis une seconde partie avec une réflexion plus esthétique, plus politique.
Pour moi, il n'y a pas Une musique spéciale, c'est une musique, la musique.
Architecture contemporaine, opus 8.
Musique d'ensemble.
Ensemble vocal.
Musiques actuelles.
Improvisation.
Plasticien.
Danse.
Composition.
Installation sonore.
Et cinéma.
Avec la participation exceptionnelle de Sophie Gontier.
4 soirées.
3 lieux.
Un thème.
Moonwalk.
Le 4 et 5 avril à la Fondation Vasarely.
À Aix-en-Provence.
Le 16 mai au Palais Longchamp.
À Marseille.
Et le 29 mai.
Déambulation urbaine dans la ville de Miramas.
Retrouvez-nous sur Facebook.
Festival Architecture Contemporaine
et sur le site
architecturecontemporaine.com.
Peut-être un peu plus fort, je ne sais pas. C'est un peu. En fait, c'est le jingle qui a été conçu par les étudiants et qui était le jingle qui ouvrait le festival, donc la présentation de l'édition de l'année dernière, donc mai 2015, et qui ouvre, si vous allez sur notre site, voilà, vous trouverez ce jingle qui a été fabriqué par les étudiants. Donc, comme je vous le disais, ce festival a été créé en 2008 et cette manifestation est donc un festival étudiant qui n'a aucune prétention professionnelle, hein, qui est vraiment un festival étudiant, qui met en scène les créations de plus de 200 étudiants qui viennent du secteur musique, des secteurs musique, cinéma, art plastique, donc de l'ex-Marseille Université, et également du secteur danse de Nice, Sophia Antipolis, parce que la danse est plutôt gérée à Nice, et donc nous collaborons régulièrement avec l'Université de Nice. Donc sa ligne artistique, depuis plus de 9 ans, favorise le croisement des arts, l'interdisciplinaire, à partir du musical. Quand j'ai conçu ça, c'est une grande question très très ancienne, c'est que très souvent le musical est illustratif. Le musical est un petit peu de façon hiérarchisée en dessous des autres arts et j'ai tenu à ce que ce festival parte du musical et qu'ensuite, bien sûr, il y a des propositions artistiques qui viennent se superposer, soit en tuilage, soit en contrepoint, mais vraiment le centre est une réflexion et une pratique musicienne. Alors, ce festival est à la fois un outil qui est un outil esthétique, un outil d'expérimentation, j'essaierai de vous le montrer, mais aussi c'est un outil pré-professionnel, puisqu'il est organisé par des étudiants qui, pendant toute l'année, s'occupent de sa valorisation, de sa communication, puisque nous avons, comme c'est aussi le cas dans d'autres secteurs universitaires, nous avons une filière action musicale. Donc voilà, donc c'est à la fois un outil pédagogique, pratique, esthétique et aussi professionnel. Alors, dans le cadre de cette conférence, je ne m'étendrai que sur la première dimension, qui est la recherche esthétique, et qui repose sur une ligne éditoriale militante, qui pourrait être résumée en 3 points. Premièrement, donner aux formations universitaires en art un espace d'expression dans la cité. Deuxièmement, valoriser l'émergence de jeunes créations en devenir. Et troisièmement, permettre aux étudiants de se sentir acteurs de leur université, mais aussi plus fondamentalement de leur future vie de musicien, ou pas forcément de musicien d'ailleurs, mais de leur future vie en tant que citoyen dans la cité. Et cela, quel que soit le niveau de pratique artistique. Parce que je crois qu'effectivement, notre mission d'éducation publique est aussi d'accueillir et de donner une place à l'ensemble des étudiants qui arrivent dans nos secteurs artistiques. Certains viennent des conservatoires, et c'est très bien, et c'est super, puisqu'il y a une pratique avérée, qu'il y a un très bon niveau de pratique, mais ça n'est pas la majorité des étudiants qui arrivent dans nos universités. Et la plupart des étudiants, d'ailleurs, les plus nombreux, viennent des pratiques, par exemple, musique actuelle, musique improvisée, n'ont pas du tout un passé dans des conservatoires. Certains ne lisent pas forcément la musique, en tout cas de façon, on va dire, traditionnelle. Donc mon propos en créant cet espace, c'était vraiment de créer un espace d'accueil pour tous, quel que soit le niveau de pratique musicale, parce que effectivement, je peste toujours sur le fait qu'en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est ici, il y a souvent une comparaison entre les conservatoires et l'université, les pôles supérieurs et l'université, ou les écoles supérieures d'art et l'université, et très souvent l'université n'est pas considérée comme un espace où il y a une production de qualité artistique, et je défends le fait, avec beaucoup d'humilité, qu'il y a effectivement une création qui est spécifique et qui est d'une grande qualité à laquelle il faut donner un espace là aussi de développement et de devenir. Alors, bien sûr, en France, tout est en train de changer, c'est-à-dire que avec le processus de Bologne, la mise en place, on verra ce que ça donnera, mais les rapprochements entre les pôles supérieurs et l'université sont en cours, sont avérés ou sont en train d'être terminés, et certainement que les choses sont en train de se redéfinir. Mais quand j'ai créé ce festival en 2008, il y avait une urgence, elle est toujours là, mais il y avait vraiment une urgence qui était de défendre le terrain, en ce qui me concerne, hein, le terrain des arts à l'université. Et vraiment une défense qui est très militante, et de dire que les étudiants, effectivement, sont de jeunes artistes en devenir. Très vite, nous avons adopté une ligne artistique très forte qui a été de relier théorie et pratique de la musique pour essayer de créer une sorte d'espace comme ça, de circulation et de fertilisation entre la théorie et la pratique. Alors comment ça se passe? C'est que ce festival repose sur des ateliers de pratique qui débutent en janvier et qui vont aller jusqu'au mois de mai. C'est-à-dire que chaque atelier, ils sont très très vastes, je vous ai mis un petit peu les... Voilà, nous avons des ateliers de musique ancienne, improvisée, traditionnelle, électroacoustique, populaire, composition, laboratoire de retranscription, ensemble vocal, etc. Il y a plein de choses. Donc ce sont des ateliers de création. Et nous entendons la création au sens le plus large, c'est-à-dire évidemment comme une réécriture, comme un anachronisme poétique, comme improvisation, comme création, composition. Donc c'est une réflexion presque postmoderne, hein, sur la création. Et chaque atelier est dirigé par un chercheur artiste, donc quelqu'un qui est en mesure d'avoir une pratique professionnelle, mais qui est lui-même un chercheur travaillant dans les domaines de la sociologie, de l'ethnomusicologie, de l'anthropologie, de la sémiologie, par exemple. Donc, les étudiants choisissent, comme ils le souhaitent, de s'inscrire dans un ou l'autre des ateliers. Ils peuvent, chaque année, donc puisque ça, c'est toute l'année de licence, 3 ans de licence, ils peuvent soit continuer une inscription chaque année, donc ils s'inscrivent en musique traditionnelle et puis voilà, soit chaque année ils changent, donc on les laisse complètement libres de circuler, de naviguer, soit d'approfondir une pratique, soit d'aller piocher ailleurs. Et tous ces ateliers sont prolongés par des cours théoriques, donc il n'y a aucune pratique qui n'est pas prolongée par un cours d'histoire, analyse, sémiologie, enfin voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une circulation, et donc dans un temps très court, l'atelier, enfin, réfléchit et doit produire une création, si possible, avec un support interartistique, donc une vidéo, une création vidéo, de la danse, etc. Donc, voilà, c'est une chose, c'est pas forcément exemplaire, hein, par ailleurs, c'est tout un montage qui se passe. Les étudiants de cinéma font une captation de chacune des éditions, donc nous avons un archivage sur le site qui est très complet, puisque chaque édition est archivée, et comme je vous l'ai montré, les étudiants conçoivent des émissions de radio sur une radio locale marseillaise qui s'appelle Radio Grenouille, qui est une radio très intéressante, qui a un vrai son, qui travaille vraiment aussi sur des répertoires, des musiques expérimentales très intéressantes, qui est très connue de des étudiants, et donc il y a une série d'émissions qui accompagnent toutes les éditions du festival. Alors, voilà, un petit exemple, c'était donc l'édition 2012, l'opus 5, qui avait comme thématique Respirer. C'est un entretien avec Joël Velay, mais je vous laisse le découvrir. Excusez-moi, est-ce qu'on peut pas avoir un tout petit peu plus fort, parce que comme c'est une bande son, non, c'est pas. Je sais pas où c'est. Non, mais moi, je pense que c'est pas moi en fait. Hein. C'est le. Ah. Peut-être c'est général. Je sais pas.
C'est la danse qu'on entend.
Bon, c'est pas grave, hein, sinon. Bon, non. Bon, continuer.
Contemporaine. Et en fait, on a travaillé vraiment, là, je les ai amenés à travailler qu'en improvisation pour pouvoir être vraiment dans cette forme d'écriture instantanée dans le lieu, avec bien sûr toute la prise en compte de l'écoute des uns des autres, l'imprégnation du lieu. Cet après-midi, on a On est venu vraiment dans cet espace-là aussi. Et puis, on a passé du temps à regarder toutes les pièces qu'il y a pour être aussi dans une intériorité et puis dans une qualité de geste et une proposition qui soit en relation pour eux. En tout cas, je veux dire qu'il n'y a rien de... Ça n'a rien d'illustratif, ça, mais qui soit imprégné de cet espace. C'est très stimulant parce que c'est de la matière vivante, de la même façon que nous, on est dans ces enjeux de corps, dans un espace de temps qui se prend aussi avec cette musicalité du corps. Et là, la présence des musiciens, c'est quand même à la fois le son n'est pas de même nature et on sent les corps aussi qui sont là. Donc il y a un jeu du vivant qui est très très intéressant et puis qui est dans une prise de risque beaucoup plus forte aussi. Enfin, c'est aussi l'enjeu de l'improvisation, quoi. Il y a à la fois un plaisir et une prise de risque qui est forte et pour eux c'est un enjeu pas facile en fait, mais très intéressant.
La ligne esthétique du festival repose sur une conception élargie du concert, conception que l'on pourrait qualifier de participative. C'est à la lecture d'un très court article du compositeur et musicologue belge André Souris, que j'affectionne particulièrement, et cet article s'appelle « Donner à entendre ». Cet article a été écrit en 1947. Donc c'est en lisant cet article que j'ai eu l'idée de créer ce festival et aussi que voilà, l'idée d'essayer de construire un espace fédérateur. C'est un article très court, mais je le trouve toujours aussi pertinent. Bien sûr, il faut le replacer dans son époque, mais il est toujours extrêmement pertinent, parce que déjà à l'époque, André Souris proposait une autre vision du concert qu'il souhaitait alors dépoussiérer et moderniser. Alors je soulignerai simplement quelques-unes des choses qu'André Souris souligne, parce qu'elles m'ont permis de construire la ligne esthétique du festival. D'abord, nous pratiquons le décloisonnement des genres et des styles, décloisonnement qui favorise la participation active des acteurs de la manifestation, étudiants, enseignants, artistes, etc. Cette hétérogénéité des styles permet en effet aux récepteurs, aux spectateurs de se confronter à une histoire de la musique et de l'art non linéaire et d'accepter de laisser résonner les œuvres entre elles, en dehors de toute forme d'idéologie progressiste ou à volonté hiérarchisante. Les créations sont immergées dans des espaces scéniques eux-mêmes décloisonnés, où la proximité entre le public et les artistes est poreuse et intime. Bien sûr, il y a un lien entre cela et toute l'histoire des premières avant-gardes contemporaines et de la relation scène-public en théâtre ou depuis Fluxus. Hein, y a rien d'extraordinaire à tout ça, mais c'est vraiment une volonté de réaffirmer cette dimension auprès de la jeune génération qui n'est pas toujours connectée avec ce genre de problématiques. Et donc la dimension participative est à concevoir sous l'angle de la reconfiguration, de la lecture croisée et libre et de la recherche d'espaces intermédiaires d'écoute et de pratique. Encore un exemple, toujours la même édition, la 5e édition.
Les musiques traditionnelles ont ceci de particulier, que ce sont des musiques de l'instant, des musiques de la fête, des musiques de lieux différents de ce qu'on appellerait classiquement la scène. Et on peut, avec ces musiques, les interpréter ou les faire vivre dans des lieux tout à fait inattendus, comme par exemple ici une chapelle désacralisée, mais ça peut être la rue, la place du village, le festival, la manifestation ou le bal avec les copains. Donc c'est autant d'occasions de musique que ces musiques-là, qu'on appelle musique traditionnelle, qui sont très modernes en fait, ce sont des opportunités qu'elles proposent et qu'elles offrent d'être jouées de façon très, on va dire, désacralisée, décontextualisée. La plupart de ces musiques ont été apprises auprès de musiciens que j'ai connus ou que d'autres ont connus, ont rencontrés, et qui nous ont transmis non seulement leur répertoire, mais aussi leur technique de jeu. Et ça, c'est une chose évidemment très spécifique, qui dépasse le simple cadre des sources manuscrites. On est dans un autre domaine, là, qui est celui de la transmission du geste, du son, du style. Et ce que vous avez vu ce soir, c'était la rencontre en fait de plusieurs disciplines artistiques. La musique, effectivement, qui mélangeait musique ancienne, médiévale et musique traditionnelle, y compris dans la pratique de ces musiques, pas seulement dans leur historicité. Vous avez vu un film qui est une création vidéo complète sur le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, mais c'était une création vidéo qui pratiquement... une démarche assez similaire à celle que moi j'applique aux musiques traditionnelles, hein, de déconstruction et d'interprétation. Et puis vous avez vu de la danse contemporaine en direct qui était improvisée aussi. Donc c'est une rencontre qui était assez peu préparée en fait entre la danse et ce qui se passait sur scène, et avec donc cette part d'impromptu, qu'on aime, de prise de risque et d'inattendu qu'on a recherché aussi.
Sont construites, les architectures contemporaines proposent donc au public et aux artistes d'expérimenter une temporalité équidistante où conversent présent, passé et futur. Donc c'est un clin d'œil complètement avoué à ce que l'on nomme ou ce que l'on a nommé postmodernité, et c'est un clin d'œil actif puisqu'il invite à vivre donc une expérience commune en live située dans un même lieu aux coordonnées multiples. Alors, le lieu renvoie tout d'abord à l'espace scénique que nous réinventons à chaque édition. C'est un festival qui est itinérant, qui est nomade, et dont nous expérimentons chaque année, à chaque édition, différents lieux, des scènes à l'italienne, aux salles de musée, au parvis d'une église, aux rues d'une commune ouvrière, un cinéma à un jardin, un toit ou un fort à ciel ouvert. Et par exemple, pour l'Opus 9, qui aura lieu en mai prochain, en 2016, nous allons investir la Cité radieuse de Corbusier, ce qui pour nous était une complète utopie, en fait, quand on a commencé. Et les utopies se réalisent, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on ira dans ce lieu qui est bien sûr magique, finalement. Et on va nous donner les clés, finalement, nous pourrons aller partout, dans les couloirs, etc. Et puis, vous le voyez, le lieu renvoie aussi à la thématique que je propose à chaque édition, qui est une thématique que chaque atelier travaille de façon esthétique et théorique. Ça peut être soit un processus créateur, soit une simple inspiration. Ça n'est que rarement une illustration. Et donc, vous voyez, on travaille sur différentes choses. Enfin, voilà, c'est un petit peu au gré des inspirations. Et chaque atelier la propose de façon extrêmement libre. Donc, en résumé, ce festival est un territoire nomade qui circule entre plusieurs cairns. J'aime bien imaginer ce genre de métaphore qui est une métaphore qui vient de la montagne. Hein, donc les cairns, ce sont les choses qui balisent le territoire. Et c'est un terrain qui est assez mouvant, hein, qui n'est jamais conçu à l'avance. C'est une scène plurielle et anachronique où se mêlent, donc, dans un présent élargi, savoir et savoir-faire. Et donc, je crois qu'elle pratique volontiers ce que Daniel Charles aimait plus que tout, à savoir nomadiser sur place. J'ai présenté le festival et je vais essayer de discuter un peu plus cette question de la participation, etc. Alors, j'ai présenté les architectures contemporaines comme un dispositif participatif, tout en sachant que ce qualificatif doit à l'heure actuelle être employé avec précaution. En effet, le terme de participation s'infiltre dans nos sociétés. De l'utopie des années 70, qui prétendait refonder le vivre ensemble, à sa prolifération contemporaine, la participation concerne chacun de nous. Dans le champ musical, ces situations sont particulièrement effectives dans les concerts dits participatifs, qui est une terminologie que l'on retrouve de plus souvent, et qui sont de véritables expériences qui sont vécues en live de façon émotionnelle. Par exemple, je citerai la tournée de concert de Coldplay sur le dernier album Milo Xiloto, qui était repéré comme ce sont des concerts participatifs, les happenings de l'artiste Dan Deacon, mais aussi les concerts participatifs de l'Orchestre National de Lyon en France ou de la Philharmonie de Paris. Donc si vous allez sur le site de la Philharmonie de Paris, vous avez un onglet concerts participatifs, etc. Donc la question participative s'infiltre dans notre quotidien artistique, culturel, médiatique, politique. Cette expérience offre au public des possibilités accrues d'interaction émotionnelle avec les artistes, les entreprises, c'est bien la question, on va y revenir, ou même les institutions, et renforce son sentiment d'engagement ainsi que son sentiment d'appartenance à la collectivité. En effet, la désaffection pour la cause politique, la montée des exclusions, la fréquentation accrue des réseaux sociaux, la perte de rapports concrets à la réalité ou l'insertion de nos êtres dans des systèmes de plus en plus globalisés et mondialisés donnent souvent l'impression d'un éloignement de la vie en train d'être vécue. Autant de raisons ici rapidement évoquées qui pourraient expliquer ce regain d'intérêt pour le vivre ensemble barthésien, Roland Barthes, et sa mise en action collective, comme si nos solitudes d'être pouvaient être contournées, voire même endiguées grâce à l'action participative. Nous ne sommes pourtant pas dupes. Dans certaines de ces situations, le sens semble dilué, fragmenté. L'adresse principale va à la masse, le public est anonyme, virtuel. Certains de ces dispositifs sont des opérations de marketing à grande échelle qui n'ont pas vraiment à voir avec l'utopie équitable du vivre ensemble. L'usage entrepreneurial en motive souvent l'élaboration. Leur rapport au pouvoir médiatique est évident. Les conditions de la participation sont bornées à l'avance, les rôles sont distribués avec précision et l'action participative apparaît comme bien souvent totalement factice, voire même autoritaire, dans la mesure où la participation devient injonction et la non-participation devient exclusion. Ainsi, la participation devient-elle quelquefois fiction ? Pour Joël Zask, qui est une philosophe qui a travaillé sur l'action participative, et je cite, « En politique, ce qui est problématique, c'est de faire croire à la participation. Quand participer se borne en définitive à faire figure de participant dans un dispositif qui n'a en rien été choisi et dont les enjeux nous échappent et dont les finalités ne sont pas les nôtres, il vaudrait mieux utiliser un autre terme. Pourtant, j'ai décidé d'employer ce qualificatif pour qualifier ce festival universitaire, donc je l'ai qualifié de festival participatif, parce qu'il me semble proposer, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire, une autre façon de fluer au sein de la société, entre autres parce que c'est un espace qui demeure ouvert, et j'y reviendrai en faisant un lien entre l'ouverture et la question démocratique. Je peux vous montrer, on va peut-être passer. Quelques détours. Pour Mathieu de Nanteuil, qui est un théoricien qui travaille normalement sur la question de la refiguration des corps dans la cité, L'activité artistique, comme le discours critique, est une autre manière de refigurer la relation du citoyen-sujet à l'espace public, en permettant l'émergence d'un espace de problématisation de l'expérience politique des corps. En ce sens, certains dispositifs artistiques favorisent une expérience incarnée qui refigure la problématique de nos corps et leur rapport à la cité et au pouvoir politique, des plus utopiques aux plus idéologiques. Dans un autre cadre, Pascal Michon, qui est plus connu, a quant à lui creusé la question des rythmes du politique. L'hypothèse de départ est reprise de Marcel Mauss, qui a montré que les corps sont soumis à des formes de mouvement et de repos, des manières de fluer, bref, des rythmes déterminés socialement à travers des techniques du corps et définissant ce que nous pouvons appeler une corporéité. Prolongeant ces premières hypothèses, Pascal Michon creuse la forme temporelle suggérée par l'économie qui est la nôtre depuis la fin des années 1990, le capitalisme mondialisé. La temporalité contemporaine néo-capitaliste conduit à une fluidité, à une flexibilité et à une décentralisation qui engendre une polyrythmie contrainte par un pouvoir tout aussi dominant que les régimes politiques antérieurs, mais plus difficile à circonscrire. Une conséquence de ce régime temporel est de menacer l'individu dans ce qu'il a certainement de plus précieux, sa personne. Car se fait jour un nouveau nomadisme obligatoire, mobilité de carrière, prédilection pour les actions et les objectifs à court terme, relations sociétales épisodiques, qui n'a plus rien à voir avec l'utopie nomade qui était, à la période précédente, le moyen d'échapper au capitalisme centralisé et bureaucratique. Ainsi, le capitalisme mondialisé, rejoint depuis peu par le capitalisme médiatique, appauvrit les contenus, enjoint de tout dire, tout en édulcorant les manières de dire, pour permettre à ces informations d'être reproduites et mises en circulation le plus rapidement possible. Je cite, « Ainsi, les démocraties libérales, qui se voyaient jusque-là comme des machines à produire des individus émancipés, tentent-elles à devenir aujourd'hui d'immenses dispositifs qui assurent, à travers une fluidification généralisée des corporéités, des discursivités et des socialités, la multiplication d'individus faibles et flottants, constamment happés par les besoins de la production et de l'échange marchand et les interactions dans lesquelles ils sont pris. » De fait, si les pratiques artistiques participatives structurent, quoi qu'il en soit, l'espace des expériences subjectives, on peut alors estimer qu'elles ont peut-être un rôle à jouer dans la reconquête de notre personne. Comme le souligne Mathieu de Nanteuil, dernière citation, c'est dans un tel contexte que les pratiques de démocratie participative prennent un relief tout particulier. Là encore, leur rapport et leur rapport à la pratique démocratique ne se situent pas prioritairement sur le terrain fonctionnel, elles gagnent à être comprises comme des tentatives visant à refigurer ce que la représentation institue sous la forme d'une séparation, l'exercice de la citoyenneté. Il est alors important, tout en soulignant l'ambiguïté de ce terme de participation, d'essayer de revaloriser l'action participative en relation avec un réengagement démocratique, et c'est ce que propose donc la philosophe Joëlle Zask dans un ouvrage qui s'appelle « Participer ». Donc l'idée, effectivement, c'est que peut-être il s'agit de pratiquer avec ces expériences participatives un rythme, je vais revenir sur ce terme-là, un rythme que Pascal Michon qualifie de rythme bénéfique. Je vais y revenir. Donc l'idée, c'est de libérer une parole, et cette parole est un engagement, et un engagement qui permet de revisiter le rapport de nos corps à la cité. Pour Joëlle Zask, alors je vais présenter très rapidement la théorie de la participation de Joëlle Zask, parce que c'est un ouvrage que j'ai trouvé extrêmement lumineux de ce point de vue-là, vous avez la référence. Mais pour Joëlle Zask, pour qu'un dispositif participatif conduise réellement à un processus d'individuation, à une expérience démocratique, il faut qu'il y ait une interaction entre trois champs d'expérience, ce qu'elle appelle prendre part, recevoir une part et bénéficier, apporter une part. Alors, l'idée, c'est que, pour elle, évidemment, il y a réelle participation et non figuration quand ces trois domaines d'expérience sont interconnectés. Et à ce moment-là, on peut presque imaginer que ce serait une sorte de grille d'analyse pour arriver à se rendre compte si tel ou tel dispositif correspond à un réel engagement démocratique. Pour Joëlle Zask, prendre part se distingue de faire partie, qui suppose une appartenance passive ou non choisie à un groupe. Donc prendre part doit être compris comme un engagement, une volonté, une envie consciente et délibérée de rejoindre un groupe, donc un choix. Apporter une part ou contribuer souligne une chose essentielle, c'est d'arriver à accepter l'individu avec ses compétences, avec ce qu'il est, et de tenir compte de ses compétences et de ce qu'il est, pour éventuellement que ces compétences-là, même pas éventuellement, sûrement, pour que ces compétences soient réinjectées dans le groupe et puissent transformer la société, si tant est que ce groupe, donc, effectivement, a une volonté d'être dans le monde. Donc la contribution est vraiment quelque chose qui insère l'individu dans une histoire commune, qui n'est pas forcément la sienne, mais qui tient compte de sa propre histoire et de son niveau, là aussi, de culture, etc. Recevoir une part ou bénéficier, bien sûr, ça n'est pas économique, ça n'est pas financier, c'est une reconnaissance du travail effectué, c'est une reconnaissance parce que cette insertion dans le second temps de la participation est réinjectée et transforme la société. Donc, pour Joël Zask, c'est le temps le plus fort qui est prévu par le dispositif lui-même, c'est-à-dire que le dispositif prévoit ce temps de bénéfice personnel, sinon ça ne peut pas marcher, et sinon, pour elle, il n'y a pas de participation. Donc ces trois temps, prendre part, contribuer et bénéficier, sont à concevoir dans leur simultanéité, leurs interactions réciproques. Et donc, effectivement, elles sont là pour quelque part essayer de voir s'il y a bien des zones de liberté, puisque l'idée de ce dispositif participatif est d'arriver à mesurer en quelque sorte la question de la liberté et de la prise de parole individuelle et de l'écoute des autres vis-à-vis de nos paroles individuelles. Alors, j'ai pas la prétention de montrer que le festival Architecture contemporaine est représentatif de cette démarche participative, parce qu'il est difficile de mesurer les possibles bénéfices de cette manifestation pour ses participants, étudiants comme artistes et chercheurs, c'est-à-dire les possibles retours à soi qu'elle pourrait procurer. Comment rapporter les sourires, les envies de recommencer chaque année l'expérience? Les générations d'étudiants qui se croisent en se disant « Tu étais à quel opus, toi ?» L'immense satisfaction que nous avons à mettre chaque année sur scène ces jeunes créations en devenir. D'apprendre quelques années plus tard que tel ou tel étudiant a fait carrière, ou peut-être même qu'il n'a pas fait carrière, mais qu'il se rappelle encore de l'opus dans lequel il était. Comment mesurer, puisque c'est bien la question aussi, notre volonté collective et inébranlable de continuer chaque année l'expérience, malgré, et je pourrais y revenir si vous le voulez, les difficultés de toutes parts, qui sont financières et qui sont politiques, et qui sont de plus en plus politiques d'ailleurs, on pourra y revenir. Comment mesurer notre volonté d'en assumer toutes les imperfections? Ce n'est pas un festival qui est professionnel, nous assumons la fragilité de ces créations étudiantes. Car c'est bien la mesure de ce troisième temps du bénéfice qui permettrait de valider le processus d'individuation et qui par là même me permettrait peut-être de résoudre la problématique de la possible refiguration des corps dans la cité. En d'autres termes, comment valider le fait que ce festival instaure un rythme bénéfique? Cette notion, qui est empruntée à Pascal Michon, rythme bénéfique, lui-même l'empruntant à Diderot, doit être déployée. Elle suppose de ne pas concevoir le rythme par le modèle du maître, mais de façon plus fluide, comme un processus qui n'est donc pas mesurable ou évaluable, quantitativement du moins. Le rythme dit bénéfique n'est pas contraint par une mesure normée ou validée par une doxa. Le rythme bénéfique n'est pas non plus totalement idiorhythmique, c'est-à-dire anarchique, puisque selon Roland Barthes, la demande d'idiorhythmie se fait toujours contre le pouvoir. D'ailleurs, ne faudrait-il pas plutôt parler de rythme bénéfique au pluriel, avec la petite parenthèse qui instaure le S, donc une sorte d'histoire au singulier pluriel. C'était d'ailleurs tout l'enjeu, finalement, de cette question de savoir si on emploie le singulier ou le pluriel, donc, et essayer de concevoir l'interaction entre l'individuel et le collectif, c'était toute la question de l'édito et de la troisième édition du festival. Juste pour vous dire qu'à l'époque, nous étions en 2010, et Marseille se préparait à être capitale européenne de la culture. Donc toute la ville était en émoi, trois ans après, nous avons eu, effectivement, Marseille a été capitale de la culture. Et dès, évidemment, 4-5 ans avant, des injonctions sont venues de toutes parts. Tout le monde pensait, tout le monde vivait la Méditerranée, tout le monde ne pensait plus qu'à la Méditerranée. Et c'était bien sûr une course, là aussi, vous voyez, à des subventions, etc. Alors j'ai voulu qu'on réinterroge cet espace. Nous n'avons eu aucun financement de Marseille-Provence 2013, je vous rassure, bien sûr. Je vais simplement vous lire l'édito de l'Obus 3, donc du festival. Pour sa troisième édition, les architectures contemporaines choisissent de questionner l'espace méditerranéen, le concevant à la fois pluriel et unifié. La Méditerranée, au cœur des débats locaux et régionaux, ne pouvait rester extérieure aux préoccupations universitaires et demeurer éloignée des étudiants du département de musique de Provence. La Méditerranée, telle que l'a étudiée Fernand Braudel dès la fin des années 40, est une histoire de rythme. Celui quasi immobile du milieu, celui lentement rythmé des destins collectifs et celui à oscillations brèves et rapides de la vie des hommes. La Méditerranée des architectures contemporaines est pleine de ses reliefs et de ses contrastes. Elle sonne comme un territoire unifié par le souffle des voix et des gestes où le rythme, utopie du sens, rêve de culture respectueuse de leurs altérités. Pour Michon, qui rappelle les conclusions de Diderot, les rythmes bénéfiques sont ceux qui permettraient de dépasser les dualismes qui déchirent et brident les individus, leur ouvrant ainsi la possibilité d'une augmentation de leur être et de leur puissance de vie. Des rythmes fluides, de qualité, qui augmentent l'intensité et la richesse de la vie des individus, singuliers et collectifs concernés. Est-ce ainsi qu'il faudrait donc concevoir la question du bénéfice dans la fluidité, l'imprécis, le trait d'union, le surplus du qualitatif, et non dans l'évaluation, la rentabilité, les retombées, la valorisation, autant de termes qui ne nous sont plus malheureusement étrangers. Il me semble en tout cas que ce serait une des seules solutions pour que la culture véritable, entendant un espace d'expression de nos multiples altérités, puisse faire partie intégrante de nos vies, pour que nous puissions y prendre part, y contribuer et en bénéficier. Pour qu'elle ne soit pas injonction, contrainte ou uniformisation, cette fluidité doit cependant trouver son lieu d'habitation, sous peine d'errer sans terre à fertiliser, car c'est bien tout l'enjeu d'un processus d'individuation que l'émergence d'un soi conscient d'être au centre d'un réseau de rencontres où chacun investit ensemble un même lieu dans une relation dynamique de partage. Ce n'est donc pas à un état de nature que doit nous conduire cette culture véritable. Elle est sauvage, elle est plurielle, elle est celle des migrants ou des exclus de la culture institutionnelle ou médiatique. Elle n'attribue donc pas a priori de qualité individuelle à la nature de l'homme, elle les pose comme un produit de l'interaction entre de l'individuel et du social. Pour revenir au festival et à l'espace dont elle favorise, je l'espère, l'individuation. Je citerai deux choses. En fait, le festival est organisé en trois temps. Il dure toute l'année universitaire. Le temps fort, celui que je tiens, quelquefois même de façon autoritaire le plus, c'est l'opus, qui est le noyau central. Mais nous avons deux temps, qui sont les préludes et les fugues. Et dans ces temps, eh bien, chaque directeur d'atelier est libre d'une programmation, c'est-à-dire qu'en fonction de ses propres réseaux artistiques, etc., il programme autant de fois qu'il le veut ses ateliers, donc qui sont aussi disséminés dans toute la région. Donc ce sont des temps qui accompagnent l'opus, mais qui sont dans une programmation complètement libre. Et à l'heure actuelle, nous étudions la possibilité d'un festival off, qui serait une sorte de plateforme virtuelle où chaque étudiant pourrait poster ses propres concerts de façon à bénéficier, bien sûr, de la reconnaissance quand même que nous avons, à la seule condition que ce soit des créations, voilà, au sens large, puisqu'évidemment, il faut coller aussi à la ligne artistique du festival. Voilà. Est-ce que tout cela nous permettra de mesurer la part de bénéfices ? Je ne crois pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elles permettront, je le pense, de garder ce festival ouvert, de le permettre de vivre indépendamment des contraintes, et notamment des contraintes financières qui actuellement le menacent considérablement. Voilà. Donc j'espère que même si c'est de façon virtuelle, eh bien, il continuera à exister. Et ça sera notre histoire aussi qui pourra se prolonger. Les questions qui traversent ma contribution ne sont-elles pas finalement simples, comme peut l'être toute complexité apparente, celle des lieux de la culture véritable, entendons par là une culture non normée, variée, refusant à ses risques et périls la rentabilité absolue, celle de l'ouverture de toute structuration à visée réellement démocratique, celle de la circularité des apports de tous dans la dite structure, celle de la reconnaissance de sa nécessaire transformation. Pour qu'une structure collective reste ouverte, elle doit accepter d'intégrer l'imprévisible et l'aléatoire comme paramètre essentiel à sa propre évolution. Imprévisibilité et aléatoire qui manifestent son degré de tolérance vis-à-vis de ses participants, considérés comme des personnes et non comme des figurants. Autant de mots qui ne sont pas étrangers à l'art et particulièrement à certains manifestes poétiques musicaux de la seconde moitié du XXe siècle. L'imprévisible, l'ouverture, l'aléatoire, ou peut-être tout simplement la prise en compte de l'imprécis que Abraham Moles proposait comme champ véritable de connaissance, de la vie, de l'expérience. Ce minuscule festival, à l'intitulé maintes fois remis en cause, difficile à porter et à défendre, et quelquefois même à prononcer, ont cette prétention, juste ne pas savoir à l'avance de quoi sera fait demain. Alors plutôt que de tenter de prévoir et de clôturer, elle tente de demeurer ouverte, d'affirmer que le projet se construit à plusieurs, de façon participative, et que cette projection doit s'ancrer dans le présent, dans la relation, dans l'entre-deux, dans l'intermédiaire, en essayant de penser de façon équitable la question du projet. Projet de circulation des savoirs et des compétences, interchangeabilité des rôles et porosité de nos masques sociaux et institutionnels, projet de répartition juste et équitable des bénéfices, acceptation du déséquilibre et de l'archéologie de nos savoirs. Projet toujours en création. Et pour terminer, quelques petites images pour terminer, qui étaient l'opus de l'année dernière au musée Longchamp. Un exemple d'une création qui a été faite par une jeune compositrice et qui tient compte du niveau de chaque étudiant. Vous allez très vite vous en rendre compte sur un dispositif. Voilà, je vous laisse deviner, vous allez vite voir de quoi il s'agit. Donc nous sommes avec des étudiants de licence 3, tous ont des niveaux extrêmement différents.
Thank you.
grand merci. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Christine. C'était très bien. Moltes gràcies a la Christine Esclapés. Tal com ho tenim organitzat, la qüestió també de preguntes la farem després, després de la intervenció de l'Aniol Casadevall, però de totes maneres a mi m'agradaria, perquè encara tenim uns minuts, si teniu alguna qüestió ara per posar en aquests minuts, doncs és benvinguda. Moi je disais que en fait la question de poser des questions c'est après avec Aniol, mais de toute façon nous avons quelques minutes. S'il y a quelqu'un qui veut poser quelques questions maintenant, c'est possible encore parce que nous avons quelques minutes pour le faire, sinon ça sera après. Ella ha dit abans que si vols també es pot fer en castellà perquè ja comprèn una mica.
Merci bien de votre conférence, splendide. Et je crois que ça a été vraiment pour tous nous une vraie inspiration de savoir ça que on travaille à l'université, les étudiants de l'université Aix-Marseille. Et je crois que ça peut aussi nous inspirer pour faire quelque chose, peut-être pareil, quelques jours ici à Gironde. Mais ça m'inquiète vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir le rapport entre esthétique, éthique et politique, parce qu'à mon avis, c'est vraiment impossible de penser aucune intervention urbaine dans les cités sans prendre en considération les aspects éthique et même politique. Et justement pour ça que m'inquiète, et comment, et c'est une question, comment tous ces projets d'individuation politique, de rapport entre individus et société, de repenser la démocratie que vous avez si bien expliqué, comment dans une cité, même dans une cité ronde, c'est pas Gironde, Marseille, dans une cité, mais même dans les cités moyennes, comment on fait pour c'est un peu délicat ça, mais comment on fait pour éviter que une manifestation artistique soit finalement destinée seulement, pour le dire comme ça, aux petits bourgeois du centre-ville, c'est-à-dire du moment qu'on met l'art dans la cité, à mon avis, c'est obligatoire de penser la cité comme un tout. Et ça veut dire pas seulement le centre-ville. Et le problème de la, si vous me permettez le néologisme, la festivalisation d'un événement artistique, musical, etc., c'est que normalement, notamment, son lieu naturel, c'est le centre-ville. Et après, ma demande, c'est qu'est-ce qu'il passe avec les quartiers ouvriers, qu'est-ce qu'il passe avec le banlieue, comment on fait pour intégrer les citoyens, parce qu'ils sont naturellement citoyens des banlieues, dans tous ces projets si belles, si intéressants, artistiques, des rapports entre art et politique.
Merci. Je peux essayer de vous répondre. Alors, oui, même je vais même étendre dans un. Oui.
La pregunta
Alors, je n'ai pas du tout la prétention de présenter Marseille ou la région comme un lieu. Enfin, ce qu'il faut simplement savoir à Marseille, c'est qu'en fait, la circulation entre les banlieues, les quartiers nord et le centre-ville, vraiment, n'est pas une chose séparée. C'est-à-dire que vous vous baladez à Marseille le samedi dans la rue de Rome, la rue Saint-Féréol, qui sont les rues, la rue Paradis, très très chic avec tous les magasins. Les cités sont là, les banlieues sont là. Enfin bon, si on doit encore employer ce terme-là. C'est vrai que, honnêtement, votre question, je n'y ai jamais pensé. Parce que je pars du principe que c'est l'inverse qu'il faut penser. C'est-à-dire plutôt, effectivement, amener ces zones qu'on a considérées comme des zones effectivement intermédiaires et quelquefois de non-droit à Marseille, il y a des choses comme dans beaucoup de grandes villes, les amener plutôt à aller en centre-ville. Alors, après le centre-ville, nous allons dans des musées, mais nous allons dans le cadre de la Nuit européenne des musées, j'en ai pas parlé, qui est une manifestation un peu comme la fête de la musique, qui est une manifestation qui a lieu en mai, toujours la deuxième semaine du mois de mai, où tous les musées de France sont ouverts de 8h à 20h gratuitement. Et donc nous produisons chaque année, alors pour moi c'est important parce que d'une part les productions étudiantes sont montrées au public, parce que là aussi, c'est aussi, même au-delà de la question des banlieues, les étudiants ne sont pas intégrés dans une vie culturelle, même urbaine, etc. Enfin, en tout cas, nous, il y a une vraie séparation. Donc, dans cette nuit européenne des musées, nous avons plus de 3, 4 000, 5 000 personnes qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont voir, en fait. Ils viennent voir le musée. Et puis, ils découvrent de la musique contemporaine, même si les écritures sont comme celles-ci, elles ne sont pas innovantes. On est bien d'accord, on est sur des partitions graphiques, etc. Mais il faut réinjecter cette mémoire-là aussi auprès des étudiants et auprès du grand public qui refuse, quoi qu'il en soit, ce type de culture sonore. Mais vraiment. Donc je ne sais pas si on défend l'université ou plutôt si on est en train de réengager le public urbain, enfin je ne sais pas comment dire, dans la manifestation. Nous avons, alors les choses se font petit à petit parce qu'on a très peu de moyens. Et aussi que, en fait, c'est une sorte de festival autoproclamé. C'est-à-dire, quand je l'ai créé seul, et que les choses sont venues progressivement, mais officiellement, il a eu du mal à exister. C'est depuis l'opus 5-6 que l'université nous a reconnus en nous donnant des subventions. Donc, depuis 2 ans, nous avons, vous voyez là, nous avons signé des conventions avec la ville de Miramas, qui est une ville plutôt ouest de la région, qui déborde justement, qui n'est pas dans le côté ex-Marseille, qui devient une métropole. Avec en France, nous vivons une réforme territoriale assez importante, et la question des métropoles se pose, donc ça va devenir une énorme métropole, ex-Marseille. Nous avons signé cette convention avec Miramas, qui est une ville plutôt communiste, plutôt urbaine, plutôt ouvrière, qui défend une vraie culture ouvrière. Et nous avons été accueillis, mais véritablement comme des rois, l'année dernière. Nous reproduisons l'expérience. Et là, nous sommes beaucoup plus sur une déambulation urbaine, dans des friches, des choses comme ça. Mais nous creusons ce terrain. Voilà. Donc, ce n'est pas idéal. Je crois qu'il n'y a rien d'idéal. On tâtonne, on essaye des choses. Ce qui est plus problématique pour nous, ça va être d'exister. Parce que à Aix-Marseille, nous avons vécu une fusion. Nous sommes une énorme université. L'année dernière, notre président a créé un orchestre universitaire. Sans se rendre compte que sur le terrain, il y a des choses qui se font, comme ce que nous faisons, mais aussi il y a des autres orchestres, etc. Donc, cet orchestre qui défend une culture qui est ce qu'elle est, a fait que de 10 000 euros de budget annuel, nous sommes descendus à 6 000 euros de budget annuel. Voilà. Donc, je comprends votre question. Pour moi, l'urgence, elle est ailleurs, en fait. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que c'est la ville, tout ça, mais je crois que les questions qu'on a maintenant, c'est de défendre réellement notre territoire, universitaire ou pas, mais faire attention à ces chapes de plomb surplombantes qui arrivent, à ces injonctions finalement de création de structures qui sont déconnectées, pour moi, des territoires et de leur diversité. C'est très utopique ce que j'ai proposé, mais c'est mon combat. Voilà. Merci.
Fent un resum molt ràpid de la resposta de la Cristina Esclapez, ha plantejat que el que vol defendre és aquest territori, d'aquesta experiència que es fa també des de la universitat, i malgrat que sí que alguna vegada s'ha fet també en altres espais i en espais de barris obrers on han estat molt, molt ben acollits, acostumen a aprofitar el centre de la ciutat dintre del que és l'espai del quadre de la Unió Europea per la música, perquè és el moment on hi ha molta gent de tota la ciutat de Marsella que participa, que els museus són gratuïts, i ella considera també que és la manera de reactivar d'alguna manera un públic, que és el públic de la ciutat, el públic urbà, amb unes manifestacions sobretot de cultura sonora de la qual estan molt allunyats, perquè hem de comprendre que realment la cultura sonora contemporània té una problemàtica respecte al que és la relació amb el públic, com arribar-hi, donat que els mitjans de comunicació doncs tampoc ajuden gaire, no? Això ho afegeixo jo. I que també vol aprofitar aquesta qüestió, no? Aprofitant que la ciutat de Marsella és una ciutat bastant oberta, on hi ha bastant barreja entre els barris de l'extraradi, la Banlieue, que seria, i el centre, i aprofitant també el fet de que llavors els alumnes puguin estar davant de 4.000, 5.000 persones i exposar la seva feina. Que després això cadascú doncs, es porta aquesta experiència a casa. I acabava dient ella que el seu problema serà existir perquè a les universitats franceses, com em temo que passaran totes perquè formem part del mateix Tractat de Bolònia, s'estan fent les grans fusions i en aquest moment doncs, s'ha creat per part del president de la universitat, el que per nosaltres és el rector, s'ha creat una gran orquestra sense tenir en compte tota la feina que ells estan fent i altra gent també pot estar fent, és a dir, fent una estructura molt més piramidal, no? I que aquest serà el problema existir, però que continuaran, evidentment. Doncs, arribats a aquest punt, fora podem sortir ara, tenim mitja hora per fer un cafetó i xerrar una mica i després continuarem amb l'Aniol Casadevall, que ja el tenim aquí també. Merci.